80 km/h sur les routes à deux voies sans séparateur central. Cette fois, c'est fait. La mesure est entrée en vigueur hier. Une mesure annoncée par le Premier ministre en janvier dernier, approuvée par ceux qui luttent contre l'insécurité routière, mais qui ne cesse d'être dénoncée par certaines associations, comme 40 millions d'automobilistes et les motards en colère, mais aussi par nombre d'élus qui parlent d'une mesure contre les territoires et la ruralité. Sous-entendu, les habitants des campagnes seraient condamnés à perdre du temps et de l'argent en roulant moins vite. Reste que c'est bien là, sur ces routes, que l'on enregistre le plus grand nombre de morts et de blessés. Or, le gouvernement estime qu'il n'y a pas de fatalité à compter chaque année plus de 3 500 morts et 75 000 blessés. Il a décidé de prendre une mesure choc pour tenter de renouer avec le cercle vertueux engagé dans les années 70, qui a permis de diviser par 4 le nombre des victimes de la route. Mais est-ce la bonne méthode? On pose la question ce soir au téléphone sonne. Avec nous, pour en parler, le délégué interministériel à la sécurité routière. Bonsoir Emmanuel Barbe.
Bonsoir.
À nos côtés également, François Durovray, président LR du Conseil départemental de l'Essonne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France. Et puis bien sûr, vos appels à vous tous au standard du téléphone sonne. Le numéro n'a pas changé, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Coucouron, en Ardèche. C'est Alexandre qui est en ligne. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Dites-nous tout.
Oui, donc, abaissement de la vitesse à 80 km/h dans certains départements, on ne s'en rend pas trop compte parce que il y a beaucoup d'autoroutes, de fois de voies. Chez nous, dans le secteur massif central, les premières deux fois de voies sont à 40 km. Et on va être touché de plein fouet par cette mesure. D'autant qu'on a sur la route des radars tronçons. Je rentre du travail et je viens de suivre pendant 7 ou 8 km sur un radar tronçon des camions, des voitures. Personne n'a doublé, on est tous restés à 80 km/h. Et à la fin du radar tronçon, tout le monde s'est mis à doubler dans tous les sens parce que forcément il fallait doubler les camions alors qu'on avait eu une zone de dépassement. Mais zone de dépassement avec limitation à 80 km/h. Donc il y a une certaine aberrance.
Alexandre, est-ce que ça vous pose un problème sinon de rouler à 80?
Ça ne me pose pas un problème de rouler à 80. Mais il y a des moments où les routes sont peu chargées en voiture, où rouler à 90 ne me posait pas du tout de problème. Quand on est commercial comme moi, qu'on est tous les jours sur la route, tout le temps sur la route, je vais quand même perdre du temps à la fin de ma journée.
Merci merci Alexandre pour cette entrée en matière. Je pense que vous n'êtes pas tout seul à penser de cette façon-là, Emmanuel Barbe. Vous venez d'entendre ce que nous dit cet habitant de l'Ardèche.
Alors je l'entends très bien. Je suis juste un petit peu surpris parce que les créneaux de dépassement sont maintenus à 90 km/h. Donc il est possible que le panneautage n'ait pas encore été fait. S'il y a une zone de dépassement, les vitesses seront maintenues à 90 km/h.
Est-ce qu'on peut justement préciser les dispositions qui sont entrées en vigueur hier? Quand c'est deux fois une voie sans séparateur central, c'est 80 pour tout le monde, c'est ça?
C'est ça. Et reste à 90 les routes qui ont quatre voies dans les deux sens, ou à les routes qui ont trois voies, mais ne reste à 90 que le sens dans lequel on peut doubler.
Pour les autres, c'est toujours 80.
Et pour les autres, c'est 80.
Dans le sens, voilà, où on ne peut pas doubler.
C'est ça, exactement. Donc il est possible que le panneautage n'ait pas été fait dans la zone de dépassement, ou alors que le département ait décidé, c'est arrivé dans quelques endroits, de garder cette zone à 80 pour une question de cohérence, mais ça me surprendrait. Donc peut-être qu'il faut juste que Alexandre prenne son mal en patience. Pour le reste, moi, ce que je voulais dire, c'est que en réalité, tout le monde perd très peu de temps. Et il y a eu, je sais pas, 40 ou 50 articles dans la presse où les médias ont essayé 80 et ont essayé 90, et deux voitures partent en même temps. Et à la fin, c'est entre 50 secondes à deux petites minutes qui sont perdues. Donc, ça procure beaucoup de sécurité. Moi, ce qui me surprend souvent, c'est que, à côté de ça, on est un pays en demande de sécurité, et tout le monde se soumet sans barguigner au contrôle dans les aéroports, au contrôle dans les magasins, au contrôle à toutes sortes de moments où on perd du temps, un petit peu de temps pour la sécurité, eh bien là c'est la même chose, mais on perd un petit peu de temps. Et donc je pense vraiment, sauf si vous êtes un très gros rouleur, que pour l'ensemble des Français qui font en moyenne 40 km sur ce type de route, la perte de temps sera très minime.
François Durovray, président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France, cet argument de la perte de temps, c'est un argument que vous reprenez à votre compte et que vous entendez beaucoup?
C'est un argument que j'entends beaucoup, effectivement. Et pourquoi on l'entend beaucoup? Je crois qu'il n'y a pas d'un côté les personnes qui souhaiteraient absolument défendre la sécurité routière et de l'autre les chauffards. On est tous pour sauver des vies, on est tous pour améliorer la sécurité routière. Simplement, ce que nous regrettons, c'est qu'il y a eu au travers de ces 80 km/h une forme de totem. C'est une décision qui a été prise sans jamais associer les territoires. Et le sentiment que nous avons, c'est que nous aurions pu aller beaucoup plus loin et donc sauver davantage de vies si un vrai travail avait été fait avec chacun des territoires pour adopter des solutions différentes parce que les situations sont différentes. Or, là, il y a une mesure décidée d'en haut qui s'applique sans aucune concertation et qui, au final, aboutit aux réactions parfaitement légitimes de la part des automobilistes qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas pris en compte la situation de l'Ardèche, qui est forcément différente de celle de mon département, de l'Essonne par exemple.
Emmanuel Barbe, plus de concertation ?
Alors, le problème d'abord, c'est que dans l'histoire du code de la route, les vitesses maximales autorisées ont toujours été fixées au niveau national par un pouvoir du Premier ministre, je crois que vous ne le contestez pas. Et en revanche, le gestionnaire de voirie, souvent la plupart du temps les conseils départementaux, ont le droit de baisser les vitesses. Et je constate que il y a très peu qui l'ont fait sur des zones très substantielles. Le vrai point est un autre, c'est que cette idée de laisser au département la possibilité de choisir certains itinéraires, elle est en fait contraire à l'accidentologie ou aux études qui ont été conduite et qui montre quoi ? Qui montre que, en réalité, si on essaye de comparer le réseau de routes d'un département au corps humain, eh bien, là où on meurt le plus, mais trois fois plus que par rapport à la proportion du réseau, c'est sur les artères, c'est-à-dire sur les grands axes. Donc, pour en France, les grands axes dans les départements représentent en moyenne 10% des routes, et on y meurt, c'est 36% des morts. C'est-à-dire que c'est 3,6 fois plus mortel qu'une route normale. Et si vous ajoutez aux artères les veines, vous êtes à 20% en moyenne dans chaque département et vous arrivez à 55% des morts. Et il n'y a pas un seul département qui n'échappe à cette règle. C'est une étude que nous avons publiée et qui a été corroborée ensuite par une autre étude de la Ligue pour la violence routière, faite par le professeur Gau, qui montre que ce sont bien les grandes routes sur lesquelles on meurt le plus. Et c'est tout à fait logique pour deux raisons. D'abord, c'est les routes sur lesquelles on roule le plus, et donc chaque véhicule étant un risque, les risques sont multipliés. Deuxièmement, c'est les routes sur lesquelles on roule le plus vite, et comme la vitesse est toujours un facteur d'aggravation des accidents, eh bien c'est ce qui explique cela. C'est pour ça que c'est une fausse bonne idée, qui ne résiste pas finalement à des analyses faites sur 5 ans et 10 ans en mortalité, et qui montre très bien que c'est pas une bonne solution.
François Durand-Vray, ensuite on repart au standard.
Oui, l'intervention de Monsieur Barbe est assez symptomatique parce que il dit d'une part les décisions sur la vitesse ont toujours été prises au niveau national et pas au niveau local, comme si l'objectif c'était de baisser la vitesse alors même que l'objectif devrait être de réduire le nombre de tués. Et de la même façon, l'argument selon lequel c'est sur ces routes départementales qu'il y a le plus de morts n'explique en rien la question de la vitesse. Évidemment, la vitesse est une cause de mortalité.
La première.
Mais il y a beaucoup d'autres causes, et parfois pas forcément la première, beaucoup d'autres causes. Et je pense, et nous pensons, que si nous avions fait un constat partagé de la situation, nous aurions pris des décisions différentes. Il n'y aurait peut-être pas eu le totem des 80 km/h, mais on aurait davantage sauvé de vie si on s'était attaqué à la fois à la vitesse, à la question de l'alcoolémie, à la question des prises de drogue, ou à l'état de la chaussée, parce que des fois, c'est la chaussée qui est en cause.
Alors, à propos de totem, on part au standard, parce que je pense que Jean-Pierre va rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure. Jean-Pierre, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Dites-moi bonsoir de vous appeler du Sud-Ouest.
Voilà, du Sud-Ouest, on va dire.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure ?
Non, absolument pas. C'est un problème sur la communication gouvernementale. Et les arguments servis par le Premier ministre concernant la baisse de la vitesse, c'est des arguments très rigoureux, ça fait partie du savoir, l'énergie libérée sera plus faible s'il en roule plus lentement, on aura davantage de temps. Il n'y a aucune contestation là-dessus. Ce qui me pose question, c'est le choix du 80. Pourquoi 80? On n'a absolument pas communiqué là-dessus. Pourquoi pas 85? Pourquoi pas 70? D'autant plus qu'actuellement, et depuis quelques années déjà, les véhicules sont soumis à des crash tests pour vérifier leur sécurité. Et les crash tests, je suis désolé, sont faits à 67 km/h. Donc pourquoi 80? Pourquoi pas 67 à ce moment-là? Est-ce que c'est un début? En disant, ben, on va commencer à 80, on baissera à 70, je ne sais pas.
Eh bien, on va poser la question, Jean-Pierre. Hein. Merci de nous avoir appelé. Emmanuel Barbe, pourquoi 80 ?
Alors en fait, pour qu'une décision soit légale, il faut qu'elle soit proportionnelle. Donc on disposait d'études qui ont été faites notamment par le Commissariat général du développement durable, qui montraient que l'abaissement à 80 km/h constitue un bilan socio-économique positif. Et si on baisse de plus, le temps perdu augmentant beaucoup, il y avait un bilan pour la société française qui était négatif. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce choix de 80 km/h. Et donc je suis désolé si on n'a pas réussi à bien l'expliquer. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'informations qui est nécessaire et qu'évidemment ce n'est pas toujours facile de la délivrer convenablement. Moi je voudrais quand même revenir un instant sur ce que disait M. Durovray à l'instant. Contrairement à ce qu'on croit, la mesure 80 n'est pas une mesure de lutte contre la vitesse, c'est une mesure de lutte contre les accidents. C'est-à-dire que si vous diminuez la vitesse moyenne pratiquée sur un réseau, vous baissez tout simplement le nombre des accidents, quelle que soit leur cause. C'est ce qui rend cette mesure extrêmement difficile à comprendre et donc à accepter. Parce qu'en réalité, tout le monde pense que, en fait, vous allez garder la même proportion dans 2 ans, vous aurez moins de morts, mais la répartition des causes sera sensiblement la même, sauf si on arrive à être très très percutant sur les mesures alcool qu'on a aussi décidées le 9 janvier. Et donc, c'est une mesure de lutte contre les accidents. D'ailleurs, en France, quand on est parvenu, grâce à Jacques Chirac, et je pense vous parle, monsieur Durovray, à faire baisser les vitesses moyennes sur les routes qui sont passées hier à 80 km/h de 7 km/h, on est parvenu à faire baisser la mortalité de 37%, toutes causes confondues. Parce qu'en réalité, comment ça va se passer? Vous avez quelqu'un qui est saoul et qui traverse une route bidirectionnelle, eh bien, si la personne en face roule moins vite, elle augmente ses chances d'éviter cet accident. Elle n'y arrivera pas toujours. Et si elle n'y arrive pas, parce qu'elle elle roule moins vite, en freinant plus, elle aura peut-être un choc moins grave. Et donc, sur une portion qui représente à peu près 10% des accidents, vous allez écrire la chronique des accidents qui n'arrivent pas ou des accidents qui sont moins graves, quelle que soit la cause de l'accident. Et c'est la chose évidemment la plus difficile à comprendre. Elle ne se rattache pas à une perception personnelle, contrairement au SMS où tout le monde s'est fait peur, contrairement à la personne qui est saoule. Là, c'est des lois des grands nombres. Je rappelle, chaque année, 500 milliards de kilomètres sont parcourus en France. Vous avez environ 60 000 accidents avec 43 millions de véhicules qui roulent. 48 millions de permis de conduire, et c'est ces lois des grands nombres qui produisent cet effet. C'est scientifique, ça a été démontré dans 500 pays du monde, et ça s'applique de l'Ardèche à l'Essonne, je suis désolé de le dire.
François Durovray, Édouard Philippe a dit qu'il assumait cette mesure. L'objectif, il l'a encore répété, c'est pas d'emmerder le monde, je le cite, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et de blessés graves. Vous le croyez pas quand il dit ça?
Mais évidemment, il y aura moins de morts et de blessés graves.
Et c'est pas essentiel?
Mais c'est bien évidemment essentiel. Ce que j'ai dit, ce que nous disons depuis le départ, c'est que nous aurions pu sauver encore davantage de vies si le gouvernement s'était appuyé sur l'expérience des départements. Nous avons 400 000 kilomètres de route. J'ai, dans mon département de l'Essonne, par exemple, 1400 kilomètres de route. Je peux vous assurer que dès qu'il y a un accident, je le vis comme un drame personnel. Et je demande à mes services, et nous le faisons ce travail en lien avec la préfecture, à ce qu'il y ait une analyse des causes de l'accident. Et à chaque fois, nous prenons des mesures. Dans mon département, par exemple, c'est 4 millions d'euros qui sont investis chaque année pour renforcer la sécurité routière, pour poser des glissières de sécurité, pour renforcer l'adhérence des routes, pour aménager un carrefour là où il doit être aménagé, pour aménager les fossés qui parfois sont dangereux. Et de temps en temps aussi pour faire des contrôles de vitesse, pour avec des mesures de police. Et c'est l'ensemble de ces mesures qui permet au final de réduire la mortalité. Monsieur Barbe disait tout à l'heure, en fait, c'est moins grave lorsqu'on est alcoolisé. L'accident sera moins grave à 80 km/h qu'à 90. C'est ce que
j'ai du mal à m'expliquer. Oui, si le choc intervient à moindre vitesse, par exemple de celui qui ne peut éviter la personne saoule, ça va atténuer la gravité de l'accident. Mais j'essayais aussi de vous dire que sur les 18 mesures du CISR, il y en a une, c'est la baisse des vitesses, et il y en a beaucoup d'autres pour lutter aussi, bien évidemment, contre les autres causes, que ce soit l'alcool, la drogue, le téléphone, etc.
Non, pas l'autre, si on a bien compris. On repart au standard. Gérard est en ligne d'Arnas. Bonsoir Gérard, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci de prendre la question et merci pour vos émissions. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la vitesse est sans doute un facteur accidentogène, mais plus encore les excès de vitesse. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend aucune mesure pour interdire les dispositifs, je pense à Coyote puisque c'est un des plus connus, qui permettent de dépasser les limitations de vitesse en toute impunité?
Eh bien, la question est posée. Merci beaucoup, Gérard. Emmanuel Barbe.
Alors, ça correspond à des dispositions du droit français. C'est la liberté d'informer. Donc, il y a eu des tentatives et je crois qu'elles ont échoué. Moi, je voudrais être plus nuancé sur ces dispositifs parce que il y a aussi deux manières de les utiliser, un peu comme un couteau. Vous pouvez planter un clou ou le mettre sur la tête de quelqu'un. Or, ces dispositifs servent aussi pour beaucoup, avec une petite sonnerie, à savoir quand ils sont en excès de vitesse pour ralentir. Donc, je ne serai pas totalement négatif, mais nous avons pris une mesure en revanche qui permettra de faire en sorte que quand des personnes à l'aide de ces services signalent les forces de l'ordre, eh bien on soit en capacité de ne pas faire redescendre ce signal uniquement pour des contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants ou de criminalité. Mais en effet, il y a certains pays qui les interdisent. Moi, je pense que dans beaucoup de cas, ça sert aussi à ce que pour les personnes à respecter les limitations de vitesse. Donc, je ne serai pas tout aussi fermé. Et puis, je pense qu'au final, souvent, ceux qui organisent des stages de sensibilisation, de récupération de points, pour dire simple, disent, en fait, leur proportion d'utilisateurs de ces dispositifs est beaucoup plus élevée que les autres, ce qui prouve qu'à mon avis, ces dispositifs, quand on les utilise pour éluder les radars, ne marchent pas, parce qu'on a des tas de radars qui sont furtifs, en fait.
Alors, à propos, il y a donc les radars qui vont contrôler, qui ont commencé à contrôler. Il y a aussi les forces de l'ordre qui peuvent verbaliser, qu'on soit bien d'accord. Si tous les panneaux n'ont pas été changés, et c'est le cas, ils n'ont pas encore tous été changés, quelle est la réglementation? C'est 80 en l'absence de d'autres précisions, c'est ça?
Alors, il va de soi que, en principe, ce qu'on devait faire pour le 1er juillet, c'était d'avoir au minimum bâché tous les panneaux, parce que la vitesse par défaut, c'est 80. C'est la route qui indique la vitesse. Comme en ville, quand vous voyez le panneau d'une ville, ça vous indique que vous devez rouler à 50. Donc, c'était la tâche qui devait être accomplie. Je n'ai pas de connaissance que dans votre département, monsieur le Président, il y ait eu de problèmes. S'il reste un panneau 90, ça peut être, c'est une des zones de dépassement que j'ai indiqué tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, c'est mieux de se méfier de rouler à 80, mais que les Français se rassurent, si quelqu'un était induit en erreur par un panneau qui était resté par erreur, évidemment que ce PV, il faut le contester immédiatement et il sautera.
Monsieur Durovray, vous avez changé les panneaux dans votre département de l'Essonne?
Oui, parce que je suis légaliste, et donc le décret a été publié, et le décret s'applique à tous, même si, encore une fois, je conteste la mesure. Et c'est vrai que la question de la limitation de vitesse et la question qui a été posée par Gérard tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est que souvent les accidents dus à la vitesse, on a des vitesses qui sont bien supérieures même aux 90 qui étaient appliquées auparavant. C'est souvent 110, 120 km/h. Et là, c'est de la délinquance routière, ce sont des chauffards. Et malheureusement, les chauffards, que la limitation soit à 80 ou 90, ils resteront des chauffards et la mesure n'aura pas fait son effet.
Olivier nous appelle à son tour. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. Alors, j'ai un petit témoignage rapide et une question derrière. Alors le témoignage, c'est que moi je suis rentré chez moi ce week-end des Pyrénées, donc j'ai emprunté la grande route des Landes, que pas mal de gens connaissent, qui sont des lignes très très longues, des dizaines de kilomètres, voilà. Et donc ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'il y avait tout un tas de noyaux de voitures qui se suivaient les unes derrière les autres à 75 ou 80 km/h maximum, qui ne respectaient absolument pas les distances de sécurité, qui étaient pare-choc contre pare-choc. Et ça, il y avait des nœuds comme ça un peu tout au long de la route. Donc ma question, alors ça c'est mon témoignage, et ma question elle est celle-ci. Vu que vous allez avoir des gens, des road trains comme ça qui vont se trimballer sur ces grandes routes, est-ce que vous croyez pas que ça va engendrer des comportements délinquants comme téléphone au volant, envoi de SMS, baisse de vigilance et évidemment une des situations très accidentogènes? Voilà, comme je peux en constater souvent.
Alors ça, c'est ce que vous avez constaté, Olivier. Est-ce que je peux juste me permettre de vous demander, vous-même, à 80 km/h, vous êtes tenté par, justement, l'envoi de SMS ou...
Ah, moi, jamais. Jamais. Non. Ça me hérisse au plus haut point. Jamais. Je ne supporte pas. Téléphone au volant, c'est non. SMS, c'est non. Voilà.
Merci, Olivier, pour cet appel, Emmanuel Barbe.
Alors, monsieur, c'est vrai que c'est entré en vigueur hier. Alors bon, c'est peut-être l'expérience est un peu fraîche. On a fait une expérimentation sur 86 kilomètres, sur 3 tronçons, sur 4 départements. Et elle a donné lieu à l'observation, à la mesure de 6 millions de véhicules qui ont été mesurées, à la fois leur vitesse et leurs interdistances. Et ce qui s'est produit au bout d'un moment, c'est qu'en fait, la mesure 80 a lissé les vitesses moyennes pratiquées et donc elle a eu pour effet d'augmenter les écarts entre les véhicules. Et d'ailleurs, de la même façon, quand on a baissé la vitesse sur le périphérique, eh bien, la vitesse le jour sur le périphérique a augmenté parce que ça a augmenté la fluidité. Donc, c'est contre-intuitif, je le sais bien, mais en tout cas, sur la mesure sur 2 ans et 6 millions de véhicules a montré que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'effet de peloton, c'est-à-dire des coagulations de véhicules, a diminué. Donc voilà, un peu de patience. Puis un dernier point, monsieur, mais d'abord je vous remercie d'être très attentif avec le téléphone, parce que c'est dramatique. Mais la deuxième chose, c'est que moi je pense pas qu'entre 90 et 80, il y a aucune des deux vitesses qui soit vraiment exaltante. On s'était habitué à l'ennui du 90, si je puis dire, et je pense qu'on peut s'habituer dans le but de renforcer la sécurité collective à l'ennui du 80.
François Durovray, sur l'appel d'Olivier.
Il ne faut pas forcément que la route soit un ennui, parce que c'est vrai que le risque induit par cette mesure, c'est qu'effectivement, certaines personnes, compte tenu en plus de la robustesse entre guillemets de certains véhicules, les véhicules de 2018 ne sont pas ceux d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Et donc à 80 km/h, on a forcément le sentiment de se traîner et il peut y avoir ce genre de comportements qui sont évidemment répréhensibles, mais il faudra qu'on fasse et que tout le monde fasse attention et effectivement à ce qu'il ne se développe pas, parce que là, pour le coup, ça serait un vrai facteur d'insécurité routière.
Emmanuel Barbe, une question quand même aussi qui nous arrive sur franceinter.fr, elle concerne les camions. Question récurrente, pourquoi est-ce qu'on ne change pas la vitesse des camions? Les automobilistes nous disent on va rouler à 80, le camion on va pas pouvoir le dépasser, il va nous coller à l'arrière. Pourquoi alors, rien de nouveau pour les camions?
Première chose, le 31 juillet, quand vous doubliez un camion, si vous voulez le doubler à 90 et qu'il roule à 80, il faut 1 km pour le doubler. Donc il y a une vaste hypocrisie dans cette question, car déjà avant, c'était très difficile de trouver la configuration d'une route permettant de doubler un camion. C'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait des créneaux de déplacement. En fait, pour dire la vérité, le moment où on double un camion, c'est vraiment le moment le plus dangereux sur une route bidirectionnelle. D'ailleurs, la plupart des accidents très graves sont enregistrés à ce moment-là, et aussi pour les camions d'ailleurs. Donc, en revanche, ce qui est intéressant, si je reviens à mon expérimentation de 86 km, c'est qu'on a constaté une baisse de la vitesse des camions, qui est sensible, 2 km/h, et je le répète, à une baisse de l'effet de peloton, c'est-à-dire des voitures coincées derrière des camions. Je pense, encore une fois, qu'il faut prendre un petit peu de temps, mais que ça finira par partir. Alors, je voulais juste ajouter un dernier point. En Suède, on vient de finir l'évaluation de la dernière baisse de vitesse, on est allé beaucoup plus loin, et ce qui est frappant et fascinant, c'est que le modèle 1% de baisse de la vitesse moyenne, 4% de baisse de la mortalité, 30 ans après, se retrouve exactement à l'identique, comme si finalement le modèle de baisse des vitesses était insensible à l'évolution des technologies. En revanche, je peux vous dire, c'est que il y a 30 ans, le cerveau humain, qui résiste assez peu aux chocs et aux décélérations brutales, c'est ce qu'a dit un de vos auditeurs à propos des essais, de l'homologation des essais, pour les casques, c'est 38%. C'est-à-dire que le choc, on supporte très mal, notre cerveau supporte très très mal les chocs et les décélérations violentes. Donc de toute façon, quelque part, en baissant un peu les vitesses, on rapproche les vitesses pratiquées des capacités humaines qui, elles, n'augmentent pas avec le temps.
François Durand-Vray.
J'entends tous les arguments et il y a quelque chose qui m'étonne et je serais presque tenté de poser une question. C'est pourquoi, alors même qu'on partage, je crois, l'idée que les territoires sont différents. Tous les territoires en France, l'Essonne n'est pas l'Ardèche ou la Gironde. Qu'on partage l'idée que ce n'est pas que des questions de vitesse et qu'il y a l'alcoolémie, qu'il y a bien d'autres causes de la mortalité sur la route. Pourquoi le gouvernement, en janvier, n'a pas dit, voilà, ce n'est pas acceptable d'avoir 3600 morts, il faut absolument qu'on réduise le nombre de morts, et on se donne 6 mois avec les territoires pour trouver les meilleures solutions adaptées à chaque secteur. Et là, je pense qu'il y aurait eu non seulement l'adhésion des élus locaux, mais même l'adhésion des Français qui se seraient associés à cette cause. Là, la décision, elle a été brutale, elle est venue d'en haut, sans concertation, et sur un sujet, les 80 km/h. Est-ce que franchement, ce n'est pas une erreur?
Emmanuel Barbe.
Écoutez, la politique de sécurité routière, elle se fonde sur la connaissance et ensuite elle permet l'adoption de normes. D'abord, il y a quand même un premier point, je le répète, c'est que aujourd'hui dans nos départements, il n'y a plus, comme il y avait il y a 30 ans, ce qu'on appelle des zones d'accumulation d'accidents corporels. Aujourd'hui, les accidents ont lieu de façon aléatoire sur un département. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est sur quel type de route ils vont arriver de façon statistiquement beaucoup plus forte. Je ne vais pas répéter les chiffres que j'ai donnés à l'instant, mais dans la plupart des départements, les routes les plus belles, celles qu'on aurait voulu laisser à 90 sont les routes sur lesquelles le nombre d'accidents sont les routes les plus mortelles. Deuxièmement, il y a quand même un problème de lisibilité du réseau. Hein, lisibilité du réseau. Si je suis Ardéchois et que je vais en Essonne, il faut que je comprenne le réseau de la même façon, comme ça a été toujours le cas dans le code de la route français, où c'est encore une fois le type de route qui commande le type de vitesse. Il y a aussi les étrangers qui traversent notre territoire. Donc on a toujours eu ces règles uniformes, et je le répète, les gestionnaires de voirie avaient le pouvoir de baisser avant de façon ces routes, et finalement l'ont utilisé.
Sauf qu'aujourd'hui, ça sera 80 ou 90. Et vous avez rappelé tout à l'heure que les 90 valaient non seulement pour les zones de dépassement, mais aussi pour les routes à deux voies.
C'est ça, là où on peut doubler sans danger.
François est en ligne. Bonsoir François.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Bonsoir et bonsoir à vos invités.
Bonsoir.
Moi je suis partisan de cette mesure. Bon, je roule pas mal, je roule moins qu'avant, mais j'ai roulé pas mal. Je trouve ça très bien. Je suis même surpris que on n'applique pas une diminution sur les autoroutes à 120 pour se mettre un peu comme pas mal de pays autour de chez nous. Mais où je suis le plus surpris, c'est les réactions d'usagers très véhémentes, d'usagers qui, eux, dans la plupart des cas, ne respectent jamais les limitations de vitesse. Les grosses manifestations, c'est les motards. Et les motards, ils respectent aucune limitation. Alors je vois pas en quoi ils ont besoin de manifester pour dire qu'ils sont pas d'accord. Ils ont qu'à le dire et puis c'est tout.
Merci François pour cette remarque, cette question-remarque. Emmanuel Barre, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez motard vous-même.
Oui. C'est vrai que les motards ont beaucoup protesté, mais on a eu des explications musclées. J'ai visité 40 départements et je leur ai dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que qu'ils ne soient pas d'accord pour rouler moins vite, parce qu'un des plaisirs de la moto, c'est peut-être de rouler vite. Je ne sais pas, moi, je ne roule pas très vite, mais je peux le comprendre. Qu'en revanche, on remette en cause toutes les lois de la vitesse, les lois mathématiques qui montrent que cette mesure fera baisser le nombre de morts. Non, qu'on assume le fait de rouler vite. Nous avons des études, en effet, qui démontrent que les motards commettent des excès de vitesse très supérieurs aux voitures. Alors, déjà, quand c'est des radars fixes, connus, avec des panneaux, et quand le radar n'est pas indiqué, alors là, les excès de vitesse sont très, très excessifs. Ces études sont en ligne, je ne stigmatise personne, mais il est certain qu'il y a ce problème chez les motards. Après ça, moi, je voudrais juste dire et répéter à François Ducouvray que moi, je ne considère pas que si on est contre le 80, on est contre la sécurité routière. Ce n'est pas mon problème. Je voudrais juste essayer d'expliquer pourquoi cette décision a été prise, qu'elle a été prise conformément aux règles du code de la route qui fixent des vitesses maximales autorisées sur le réseau, que peuvent baisser les gestionnaires de voirie s'ils estiment que ces vitesses sont encore trop élevées. Et je crois que c'est le point le plus important. Il y avait aussi des craintes de la perte de temps. Moi, j'ai envie de demander aux Français d'essayer la mesure et dans quelques mois, je suis à peu près persuadé que pour une immense majorité d'entre eux, ils se rendront compte que ça n'a pas changé leur temps de trajet ou pas fondamentalement.
Il y avait une sous-question qui n'était pas une question, mais qui était quand même sous-entendue dans ce que nous disait François. C'était pourquoi ne pas descendre à 120 sur les autoroutes ?
Alors, c'est là aussi dans le rapport du commissariat général du développement durable, c'était une mesure dont on considérait que ses bénéfices étaient largement supérieurs à ses inconvénients. Il faut voir que sur les autoroutes, comme on fait des distances beaucoup plus longues, les pertes de temps étaient beaucoup plus importantes. Et deuxièmement, les autoroutes sont pardonnantes et donc le gain en mort aurait été inférieur. Pour ma part, à titre personnel, si on baissait les autoroutes à 120, vous doutez bien que je ne trouverais pas ça aberrant. Mais je le répète qu'il y a un problème de proportionnalité des décisions. Et autant le 80 est démontré comme une mesure proportionnelle, autant sur la baisse des autoroutes, les études que nous avions, que nous aurions dû prouver ou montrer devant le Conseil d'État, ne le montraient pas.
Et j'ajoute qu'on a aussi des questions sur franceinter.fr. Je vous les livre, telles qu'elles sont. Est-ce que le lobby des autoroutes a pesé sur le gouvernement pour imposer cette mesure et diriger les gens vers les autoroutes?
Le problème, c'est que même si je réponds non, on ne va pas me croire.
François Durovray, il n'y a pas des autoroutes partout, hein, vous allez me dire.
Il n'y a pas d'autoroutes partout. Dans mon département, elles sont généralement à 110, puisqu'on est en agglomération parisienne. Maintenant, je crois que toutes les interventions jusqu'à présent montrent que ce n'est pas une remise en cause du 80. D'ailleurs, si la mesure avait été faite à 70 ou à 50, on aurait encore sans doute davantage réduit le nombre de morts. Et Monsieur Barbe a évoqué des raisons socio-économiques qui justifiaient le choix du gouvernement. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est la méthode. Voilà, la méthode, elle est brutale, elle vient du sommet, sans associer les territoires et sans prendre en compte les spécificités de chacun des territoires. Et là encore, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour atteindre l'objectif de sécurité routière. L'étude même qui a été fournie par les services de sécurité routière a été publiée avant que la décision ait été prise. Au début du mois de février, alors que l'annonce a été faite le 9 janvier. Vous voyez bien que là, il y a une forme de précipitation, il y a une forme de coup politique que les Français ont parfaitement analysé et qui explique aujourd'hui leur réticence.
Est-ce que cette affaire, elle n'est pas révélatrice aussi d'un, monsieur Durovray, d'un malaise plus général, celui des zones rurales qui se vident de leur service public? Parce qu'on entend beaucoup de gens nous dire, bah oui, nous, on est obligés de prendre la voiture. Est-ce que c'est pas ça aussi?
C'est la
plus
réalité.
Que les 80 km/h.
C'est la réalité. Ce sont des territoires aujourd'hui qui se sentent abandonnés, qui voient les services publics disparaître, qui voient des distances de plus en plus grandes entre le domicile et le travail. Mais ce sont aussi des réalités que je vis dans mon département qu'on considère de banlieue. Moi, il y a beaucoup d'Essoniens qui sont obligés de consacrer un temps infini à leur déplacement au détriment de leur vie quotidienne et avec de la fatigue. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, nous sommes tous attachés à l'amélioration de la sécurité routière. Mais aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'informations qui auraient permis de le faire avec davantage de finesse. On ne parle même pas, ne serait-ce que les conditions météo. On est d'accord que les conditions météo, que la route soit mouillée ou sèche, impactent évidemment sur la sécurité routière. Aujourd'hui, ça existe déjà et ça va se développer dans les mois et les années qui viennent. La route intelligente, la capacité d'adapter la vitesse, que le véhicule prenne en compte ces données-là. Franchement, la mesure semble un peu passéiste par rapport aux enjeux et par rapport à tout ce qui va arriver sur la route et sur les automobiles qui vont permettre d'adapter la vitesse et de renforcer la sécurité routière.
Un petit mot Emmanuel Barbe, puis on repart au standard.
Écoutez, moi j'ai participé à l'élaboration de la stratégie du gouvernement sur le véhicule autonome. Je peux vous dire qu'il y a encore pas mal de temps à attendre avant que ce soit un vrai correctif pour la sécurité routière.
Je vous invite en descendant vers les Yvelines.
Non, mais écoutez, j'y suis allé, je connais bien ces départements.
Allez, on part à Nantes cette fois-ci. C'est Eric qui nous appelle. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Alors, moi, déjà, je fais plus de 3000 km par mois, personnellement, au niveau de mon travail. Voilà. Moi, j'ai plusieurs points à voir. Déjà, j'aimerais avoir, moi, par rapport le nombre de camions impliqués dans le nombre d'accidents mortels. Bon, ça, c'est la première chose. On n'en entend jamais parler. Là, en plus, pour moi, je suis opposé aux 80 km/h. Voilà, je pense que le 80 km/h amènera moins de morts, en effet, parce que les accidents seront moins... il y aura moins de vitesse, donc il y aura moins de morts. Mais à mon avis, il y en aura plus, parce qu'on sera plus moins vigilant à conduire. Et en plus, on va passer plus de temps sur la route, donc un risque d'avoir plus d'accidents.
Merci beaucoup pour cet appel, Eric. Alors, on prend les choses dans l'ordre, Emmanuel Barbe, les camions.
Les camions ne sont, en proportion des kilomètres qu'ils parcourent, sont assez, enfin, provoquent relativement peu d'accidents. Après, quand ils en provoquent un, c'est toujours grave, parce que c'est des chauffeurs professionnels qui roulent plutôt moins vite. Mais c'est vrai que leur masse cinétique est impressionnante. Mais globalement, c'est un moyen de transport en proportion qui est très très sûr.
Sur l'autre argument qui consiste à dire, on va être plus dangereux parce qu'on va rouler moins vite.
Alors, tous les cas où on a mesuré les baisses de vitesse ont pris en compte l'ensemble des problèmes qui se posent, c'est-à-dire aussi bien la somnolence, le téléphone, l'alcool ou tout ce que... Je le répète, c'est une mesure anti-accident, c'est pas une mesure vitesse. Donc, on a pris en compte dans les calculs la baisse de somnolence. Elle interviendra pas tant que ça, puisque je suis encore une fois persuadé que ça, c'est un problème de comportement qui n'est pas lié... Enfin, comment on peut justifier qu'en roulant moins vite, on peut s'autoriser à téléphoner? Je crois pas qu'il y ait de lien de cause à effet entre l'un et l'autre. Et en tout cas, dans les expérimentations, c'est pris en compte.
Jacques nous appelle des Charentes. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Question importante sur l'environnement, je crois.
Oui, peut-être. En tout cas, c'était savoir s'il y avait eu une étude scientifique, puisque là, j'entendais parler de choses un peu scientifiques, sur la baisse de la consommation de gasoil. Parce que moi, j'ai ma petite idée, mais est-ce qu'il y en a eu une?
Eh bien, on va poser la question à Emmanuel Barbe.
Alors, il y a une étude qui a été fournie par l'ADEME qui indique qu'il y aura des économies d'énergie. Mais tous les journalistes qui, par ailleurs, ont fait des essais, des comparatifs 80-90, ont indiqué la même chose. Alors, je pense qu'une de ces économies, c'est non seulement qu'on roule moins vite, mais on double moins. Et en doublant, on consomme beaucoup d'énergie. Donc, je pense que
L'ADEME dit 120 euros par an de carburant en moins, 30% d'émissions polluantes en moins.
Ce n'est pas l'argument sur lequel on s'est le plus fondé, mais on peut quand même raisonnablement penser qu'en roulant moins vite, avec une vitesse finalement qui est plus stable, eh bien on consommera moins. Les Français jugeront.
Petite question sur ce qui se passe quand on est pris en train de rouler au-dessus de la vitesse autorisée. C'est quoi, 68 euros d'amende, un point de permis, c'est ça?
Oui, mais c'est 68 points si on paye...
68 euros, pardon,
oui. Si on perd... oui,
c'est 68 euros,
il n'y a personne qui les a, oui. 68 euros si on paye pas tout de suite. Si on paye tout de suite, c'est 45 euros et c'est un point qui est restitué au bout de 6 mois si on ne recommet pas de nouvelles infractions. Donc c'est petitement puni. C'est beaucoup plus faible que dans le reste de l'Europe, les amendes.
Question aussi sur le fait que cette décision qui vient d'être prise est expérimentale. C'est ce que nous a dit Emmanuel Macron. On va faire un bilan dans 2 ans, Emmanuel Barbe. Quelle sorte de bilan? Quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre? Parce que le nombre de morts a commencé à diminuer au début de cette année sur les routes de France.
Alors ça, c'est déjà un effet de la mesure.
Vous pensez?
Parce que plus on parle de sécurité routière, plus les gens font attention. Oui, c'est très sensible.
Et de la météo.
Ça a toujours joué. C'est ce qu'on appelle la parole performative en sécurité routière. L'expérimentation, elle va d'abord mesurer le nombre de morts et de blessés graves sur nos routes. Et ensuite, nous allons mesurer d'autres choses qui sont très importantes. C'est la baisse effective de la vitesse moyenne pratiquée et puis aussi l'acceptabilité de la mesure. C'est les 3 points de mesure. Et on mesurera évidemment aussi, pour savoir comment alimenter le fonds créé à cet effet, l'augmentation ou non des flashs.
Et dans ce cas-là, on décidera de poursuivre ou pas de...
C'est l'engagement du président de la République. Je crois qu'il a montré qu'il tenait ses engagements. Et donc, dans 2 ans, cette évaluation sera publique, elle sera débattue. Mais je vais être très honnête, j'ai absolument aucun doute que ça produira des effets remarquables.
François Durovray.
J'aimerais également que dans cette évaluation, on compte le nombre d'accidents causés par l'état de la chaussée, notamment des routes nationales. Quand vous regardez aujourd'hui l'état du réseau national, non concédé, c'est-à-dire hors autoroute, confié à des gestionnaires privés, que vous voyez aujourd'hui, c'est la dégradation, les nids de poules et autres, je pense que c'est une cause nouvelle et importante de l'accidentologie sur la route. C'est tout simplement parce que l'état n'a plus les moyens d'entretenir son réseau. C'est une vraie difficulté. On sait qu'il faudrait 3 milliards en 10 ans pour remettre à niveau les routes par rapport à ce qu'on a connu il y a 10 ans. Et que si l'État n'agit pas très rapidement, il va falloir encore abaisser la vitesse compte tenu de l'état de son réseau.
Emmanuel Barbe.
Alors, le Premier ministre a indiqué ce matin que ces points-là seraient vus dans la loi sur la mobilité qui va être décidée à la fin de l'année. Moi, je voulais juste dire qu'en termes d'accidentologie, des accidents qui ont pour unique cause le réseau sont en nombre assez faible. C'est à peu près 5% ou 4%. Donc, c'est assez faible. 90% ou 92%, ça dépend des chiffres qu'on prend, des accidents sont liés au comportement du conducteur.
Mais évaluons ça aussi dans 2 ans.
Bien sûr, mais on pourra le faire. De toute façon, les statistiques, elles sont faites par un organisme qui est agréé par la statistique nationale et qui est tout à fait indépendant. D'ailleurs, sinon, on n'aurait pas affiché pendant 3 ans des résultats à la hausse.
François Durovray, vous qui êtes président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France, va-t-il y avoir des initiatives au niveau des départements pour compléter peut-être cette mesure-là et puis les autres mesures qui sont entrées en vigueur?
Mais elles sont déjà prises. Elles sont déjà prises.
Vous allez aller plus loin. Vous avez 20 secondes. Pas
non,
plus.
Et les départements français disent aujourd'hui au gouvernement, chiche, allons plus loin, prenons des mesures pour renforcer encore la sécurité routière et pour réduire le nombre de morts. C'est possible, les territoires s'affairent, sont compétents et arrêtez de penser depuis Paris que tout peut se décider.
Merci François Durovray, merci Emmanuel Barbe. Vous continuez votre petit tour de France pour porter la bonne parole. Terminé.
Il y a encore quelques départements où j'ai dû annuler, je vais y retourner bien évidemment, car je ne m'adhère absolument pas à la nécessaire pédagogie, voire la contestation.
Merci beaucoup Emmanuel Barbe, à vous aussi. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Pierre Dessertaine, Simon Aresta, Caroline Baudry, à la technique ce soir, Stéphane Beaujat, Ludovic Asselot, à la réalisation Éric Lenné. Merci aussi aux standardistes de l'émission. Demain, vous retrouverez Stéphane Leneuf pour un téléphone sonne spécial Europe en direct du Parlement européen.